RFI, il est maintenant 13h, temps universel 8h à Washington et Port-au-Prince.
RFI midi.
Charlotte Idrac.
RFI midi, la suite avec ce revirement. Aux États-Unis, Joe Biden sur le départ, gracie son fils Hunter, poursuivi dans deux affaires judiciaires. Le président américain avait pourtant dit plusieurs fois qu'il ne le ferait pas. On ira aussi en Haïti où l'île de Gonâve fait face à un afflux de déplacés qui fuient les violences de gangs dans la région de Port-au-Prince. Et puis notre rendez-vous avec nos confrères d'Outre-mer. Première au sommaire, Benoît Ferrand, le marathon judiciaire qui débute pour le leader du mouvement de contestation contre la vie chère en Martinique.
Rodrigue Petitot, figure emblématique du RPRAC, n'aura pas moins de 3 rendez-vous avec les juges en décembre et en janvier. Précision tout à l'heure de notre confrère de la première Martinique, Alain Livory.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. Et tout de suite, le journal. Et Gilles Moreau, à la une, la situation incertaine en Syrie, où le régime ne contrôle plus Alep.
Oui, des avions syriens et russes ont bombardé ce matin les secteurs rebelles du nord-ouest de la Syrie, la région d'Alep. 11 civils, dont des enfants, ont été tués, selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, que le pouvoir allié de l'Iran et de la Russie perd entièrement le contrôle d'Alep, la deuxième ville du pays. Actuellement, la Russie consacre toutes ses ressources à la guerre en Ukraine. Elle tente cependant de montrer qu'elle n'est pas absente sur ce front syrien, Anissa El-Jabri.
Les médias russes continuent à traiter les événements en Syrie de manière très discrète, relégués en fin de journaux télévisés. Ceux-ci sont par exemple traités dans le quotidien Commerçante ce matin sous ce titre très euphémisé, changement sur le front syrien. Le Kremlin a lui en tout cas changé de braquet, en tout cas verbalement. Vendredi, il demandait encore aux autorités syriennes, je cite, de rétablir l'ordre dans la région d'Alep. La phrase a parfois été interprétée comme une forme de lâchage. Ce lundi, après la chute de la deuxième ville du pays, cette fois le porte-parole de la présidence, Dimitri Peskov, affiche du soutien au régime allié et à son dirigeant.
Nous continuons à soutenir le président syrien Assad. Et au niveau approprié, nous poursuivons nos contacts et analysons la situation. Une position sera prise sur ce qui est nécessaire pour stabiliser la situation.
Aucun détail concret sur la manière dont la Russie peut apporter une aide. Les chaînes Telegram Z, mais aussi la chaîne Riba, réputée proche du ministère de la Défense, rapportent-elles ce qui peut aussi être vu comme un signe de colère du pouvoir. Juste après la prise de la ville d'Alep ce week-end, le commandant des troupes russes en Syrie aurait été démis de ses fonctions. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Outre la Russie, la Chine annonce qu'elle aussi soutient le régime syrien. Enfin, autre allié du régime de Damas, l'Iran compte maintenir ses conseillers militaires en Syrie. Au moins 56 morts et des dizaines de blessés, c'est le dernier bilan des très graves incidents qui ont éclaté hier en marge d'un match de football en Guinée. Il se déroulait dans un stade de Nzérékoré, l'une des plus grandes villes guinéennes dans le sud-est du pays. La situation a dégénéré suite à une décision contestée de l'arbitre et d'un envahissement de la pelouse. Il s'en est suivi un mouvement de panique ainsi qu'une bousculade meurtrière.
Les représentants de 124 pays sont réunis à La Haye aux Pays-Bas.
Oui, c'est la réunion annuelle des États qui reconnaissent la Cour pénale internationale. Actuellement, le climat autour de la CPI est lourd. Une polémique d'envergure mondiale a suivi le mandat d'arrêt lancé contre Benjamin Netanyahou. À La Haye, la présidente de la Cour a fustigé ce matin les attaques contre la juridiction. Envoyé spécial Julien Chavannes.
Sa voix est frêle et son regard quitte rarement ses notes, mais la présidente de la Cour, la japonaise Tomoko Akane, est montée au front pour défendre la CPI.
Nous sommes à un tournant de l'histoire. Ce n'est pas de la rhétorique. Le droit international et la justice internationale sont menacés. Mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. C'est l'existence même de la Cour qui est en jeu.
Les mots sont forts, la Cour de La Haye joue son avenir après la volte-face de la France qui parle d'immunité pour Benjamin Netanyahou et les menaces directes des États-Unis. Le procureur de la CPI, le Britannique Karim Khan, appelle les États membres à ne pas les lâcher.
Nous pouvons relever ces défis si nous restons unis, si nous restons ensemble. C'est un espoir fragile. Pour reprendre une phrase d'Elton John, c'est une bougie dans le vent. Elle peut être soufflée.
Le ton reste polissé, mais le climat est pesant ici. La CPI est en mode survie. Elle demande aux États partis de résister avec elle, car sans eux, pas de budget ni de légitimité politique. Julien Chavannes, L'AE, RFI.
Aux États-Unis, Donald Trump complète son équipe.
Avec une place de choix réservée à la famille, le président élu envisage de nommer ambassadeur les pères de deux de ses gendres. Il serait nommé au poste prestigieux et stratégique d'ambassadeur à Paris et de conseiller stratégique pour le Moyen-Orient. Charles Kushner, le beau-père d'Ivanka Trump, devrait arriver à Paris, alors que Massad Boulos, beau-père de Tiffany Trump, serait lui chargé de négocier la paix au Moyen-Orient. Les précisions de notre correspondante à New York, Carrie Noton.
Pour le président élu, Charles Kushner est un formidable homme d'affaires et un philanthrope. Et ainsi, il voit le père de son gendre, Jared Kushner, représenter Washington à Paris, l'un des postes les plus prestigieux de la diplomatie. Il y a 4 ans, il avait déjà montré son estime pour le mania de l'immobilier. Il l'avait gracié alors que celui-ci était tombé pour fraude fiscale et avait déjà purgé 2 ans de prison. Surtout, entre Donald Trump et Charles Kushner, l'amitié est longue et s'est solidifiée au gré des donations de campagne. L'homme d'affaires américano-libanais Massad Boulos est lui entré dans le cercle Trump plus récemment alors que son fils a épousé Tiffany Trump il y a 2 ans. Il a activement pris part à la campagne en convainquant la communauté arabe de certains états clés de voter républicain malgré la disparition annoncée de la solution à 2 états sur le dossier israélo-palestinien. Chrétien maronite, Massad Boulos avait tenté de se faire élire au Parlement libanais sans succès. Il devrait maintenant piloter la fin de la guerre à Gaza qui a enflammé la région depuis plus d'un an. Carine Auton, New York, RFI.
En France, la semaine qui commence est celle de tous les dangers pour le gouvernement de Michel Barnier. Il ne tient plus qu'un fil après l'annonce par le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen, de son intention de voter la motion de censure. La gauche pourrait déposer cette motion dès cet après-midi sur le budget de la sécurité sociale si le gouvernement fait usage du 49-3.
Le procès de l'assassinat de Samuel Paty continue devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Oui, et c'est au tour aujourd'hui de Brahim Chinine d'être entendu par la cour. Ce parent d'élève avait publié une vidéo et des messages sur les réseaux sociaux ciblant le professeur d'histoire-géo de sa fille. Celle-ci avait injustement accusé Samuel Paty de discrimination lors d'un cours sur la liberté d'expression. Le professeur avait ensuite été décapité par un jeune radicalisé d'origine tchétchène. Amélie Beaucourt, vous suivez ce procès. Amélie, le père de la collégienne avait d'ailleurs été en contact avec l'assassin peu avant l'attentat, épisode sur lequel l'accusé est revenu ce matin.
Effectivement, Gilles, nous sommes remontés au soir où, révolté par le récit de sa fille, dont on apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un mensonge, Brahim Chinina, 48 ans à l'époque, raconte impulsivement sa colère sur ses réseaux sociaux où il est très suivi. Il indique le nom du professeur et l'établissement avant finalement de les supprimer. « J'ai été bête et stupide », confesse-t-il en expliquant avoir voulu défendre sa fille et essayer de récolter des soutiens pour écrire à la direction du collège et demander une sanction contre Samuel Paty. Ces publications deviennent virales et finissent rapidement par le dépasser. Des dizaines, des centaines de messages lui parviennent, des appels téléphoniques aussi, lui demandant de donner des détails sur l'académie concernée, sur le collège et sur le professeur. L'un d'eux est Abdullah Kanzorov, le futur terroriste. Mais à ce moment-là, raconte Brahim Chinina, il est à 1000 lieues de s'en douter. Le numéro de téléphone de l'assassin sera pourtant enregistré dans le portable du père de la collégienne. Je pensais qu'il s'agissait d'un simple soutien que je pourrais contacter plus tard, justifie l'accusé. Vous n'avez pas senti que cela pourrait déranger? Rappé à ce moment-là, questionne le président de la cour. Absolument pas, malheureusement. Je regrette, a-t-il répété par 3 fois, je me suis fait avoir par moi-même, je n'ai jamais voulu faire de mal à M. Paty. Brahim Chinina risque 30 ans de réclusion criminelle.
Merci Amélie, c'était Amélie Beaucourt à la cour d'assises spéciale de Paris. Enfin, c'est son 3e déplacement dans le royaume wahhabite depuis 2017. Emmanuel Macron s'est envolé pour une visite d'État de 3 jours en Arabie Saoudite. Il est attendu en fin de journée à Riyad. Très bonne journée sur RFI. Tout de suite, la suite d'RFI Midi avec Charlotte Hydrac.
Gilles Moreau, à tout à l'heure, on retourne aux États-Unis.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Avec ce revirement de Joe Biden, le président américain a gracié finalement son fils Hunter quelques semaines avant de quitter la Maison Blanche. Hunter Biden, qui était condamné dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale, il attendait de connaître sa peine. Et cela suscite pas mal de commentaires, Christophe Paget, de commentaires dans la presse américaine.
Oui, Hunter s'en tire à bon compte, titre en une le tabloïd conservateur New York Post, qui souligne que le président revient sur sa promesse, ce que rappelle toute la presse, le Washington Times, USA Today ou encore le Wall Street Journal, qui parle de volte-face puisque Joe Biden avait promis de ne pas gracier son fils. Le quotidien insiste aussi, ce pardon est particulièrement large. Il ne cite pas de crimes spécifiques et couvre d'éventuels crimes commis jusqu'à 2014. Nous n'avons pas vu de grâce aussi large depuis des générations, s'exclame Politico, depuis que le président Nixon a été gracié par son successeur Gerald Ford en 1974. Si cette grâce est aussi vague, écrit le site d'information, c'est parce que Donald Trump a régulièrement promis d'utiliser son second mandat pour enquêter sur des membres de la famille Biden et les poursuivre. Il s'agit donc de guérir et prévenir pour le président Biden, dont la décision intervient après l'annonce de la nomination par son successeur de Kash Patel comme directeur du FBI. Lorsque Hunter Biden était en train de négocier avec la justice un accord qui finalement n'a pas vu le jour, Kash Patel avait estimé que ce texte était exceptionnellement indulgent.
Et cette grâce annoncée par Joe Biden est critiquée aussi bien côté républicain que par certains démocrates.
Elle ébranle le monde politique, titre The Hill, avec d'abord la fureur républicaine exprimée par Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Est-ce que le pardon de Joe pour Hunter inclut les otages du 6 janvier ? Une référence, semble-t-il, aux émeutiers emprisonnés après avoir pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Le New York Post relaie également la réaction du sénateur de l'Arkansas, Tom Cotton. La plupart des Américains peuvent comprendre la décision d'un père de gracier son fils. Ce qu'ils ne peuvent pas pardonner, c'est que le président Biden a menti là-dessus de manière répétée avant la présidentielle. Les républicains disent que Biden est un menteur, titre d'ailleurs Politico. Le site liste aussi les réactions démocrates. Certains ont défendu la décision du président, pas tous. Le député d'Arizona, Greg Stanton, parle ainsi de l'erreur de Joe Biden. Ses poursuites n'étaient pas politiques. Hunter a commis des crimes et il a été condamné par un jury de ses pairs. Le New York Times rappelle d'ailleurs que si le fameux accord négocié a finalement capoté, ce n'est pas, comme le suggère Joe Biden, à cause de pression politique, mais bien parce qu'un juge a estimé qu'il était mal construit.
En tout cas, cette décision, selon le New York Times, aura des conséquences politiques.
On le sait, Donald Trump clame depuis longtemps que le système judiciaire est utilisé contre lui et en graciant son fils Hunter, écrit le quotidien new-yorkais, Joe Biden ressemble beaucoup à son successeur en se plaignant de poursuites sélectives et de pressions politiques, mettant en cause l'équité d'un système qu'il a jusqu'ici de longue date défendu. La grâce du président Biden va donc compliquer la tâche des démocrates qui veulent défendre l'intégrité du ministère de la Justice et faire obstacle au plan avoué de Donald Trump d'utiliser ce ministère à des fins politiques.
Direction le Canada, la suite de votre revue de presse, Christophe Paget. Le Canada, avec ses promesses du gouvernement Trudeau à Donald Trump concernant l'immigration.
Le Canada, écrit en une le Globe and Mail, a promis à Donald Trump qu'il va déployer des hélicoptères, des drones et du personnel supplémentaire pour surveiller son côté de la frontière. Objectif, essayer de convaincre le président américain d'abandonner sa menace d'augmenter les droits de douane du Canada, mais aussi du Mexique, jusqu'à ce qu'ils aient stoppé l'immigration illégale et le trafic d'opioïdes. Mais, écrit le quotidien, le ministre de la Sécurité publique canadien, qui était présent lors de la rencontre Justin Trudeau-Donald Trump vendredi dernier, a avoué ne pas avoir obtenu d'assurance sur un éventuel recul du président américain sur ce point. Dans le Toronto Star, un stratège conservateur parle lui aussi migration et États-Unis, mais dans l'autre sens. Revenant sur la promesse d'expulsion de masse de Donald Trump, il estime qu'elle va précipiter de nombreux migrants désespérés vers le nord et que le Canada n'est pas en état de faire face à cette réalité, que ce soit d'un point de vue politique, humanitaire ou stratégique.
Et puis au Venezuela, l'opposition manifeste pour la libération de prisonniers politiques.
Quelques dizaines de personnes, familles et amis des détenus se sont réunis pour une veillée sur la place La Castellana à Caracas, raconte Efecto Cocuyo, pour demander que tous les prisonniers politiques soient libérés. 1800, selon le Comité pour la libération des prisonniers politiques. Une veillée convoquée par la plateforme unitaire démocratique, la coalition de l'opposition, demandant aussi, précise Tal Cual, que cesse la répression dans le pays et que la Cour pénale internationale intervienne maintenant. La CPI qui enquête sur le Venezuela pour de présumés crimes contre l'humanité. Tous les manifestants étaient appelés à se peindre les mains en rouge, se prendre en photo et les partager sur les réseaux sociaux, explique El Nacional, ce qu'ont fait des Vénézuéliens dans plusieurs états du pays, mais aussi un peu partout dans le monde. Efecto Cocuyo publie des photos prises en Équateur, en Norvège, au Japon, en Angleterre, en Espagne ou encore en Argentine.
Christophe Paget, votre revue de presse des Amériques, c'est tous les jours, c'est à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
RFI en Haïti, le pays déstabilisé par la violence des gangs, en premier lieu dans la capitale, Port-au-Prince, contrôlée à plus de 80% par les groupes armés, et cela provoquent des mouvements de population. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 700 000 personnes sont déplacées à l'intérieur des frontières du pays, notamment des personnes qui fuient la région de la capitale pour se réfugier vers l'île de la Gonâve. C'est à une cinquantaine de kilomètres au large de Port-au-Prince, dans la zone de l'Arcahaie. Le problème, c'est que l'île n'est pas équipée pour faire face à l'arrivée de ces déplacés, Lila Olkinwara.
Il serait environ 1500 depuis début octobre, selon l'OIM, mais plus de 7000 selon les autorités locales de la Gonâve. Amos Toussaint est secrétaire du conseil de développement communal de Lens-à-Galais, la ville principale de l'île. Il constate l'urgence de la situation.
Dans tous les ports, les gens débarquent chaque jour en vue de fuir la violence des gangs et pour échapper à une mort certaine. Alors il y en a qui sont attachés, qui ont des proches à la Gonâve, mais il y en a aussi qui sont venus mais qui n'ont aucune affiliation ici. Donc il y a même des enfants qui sont venus ici sans leurs parents. C'était une situation de sauve qui peut. Et donc les gens ont dû laisser tout court pour échapper à la mort certaine et puis ils arrivent ici.
Parmi ces réfugiés, une majorité de femmes et d'enfants qui fuient les violences autour de la route nationale numéro 1 au nord de Port-au-Prince. Pour l'heure, l'île de 87 000 habitants est épargnée, mais elle est depuis longtemps confrontée à un manque de services essentiels et d'approvisionnement. Un vrai problème pour la population locale et les nouveaux arrivants, selon Amos Toussaint.
L'arrondissement de la Gonâve vivait déjà dans une situation extrêmement difficile. Les services sociaux de base n'étaient pas disponibles. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de service de santé de référence, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'université, il n'y a pas d'espace de loisirs, il n'y a pas de centre socioculturel, il n'y a rien, absolument rien pour l'épanouissement des jeunes. Et la vie ou l'existence même devient de plus en plus difficile à la Gonâve.
Une situation accentuée par la présence de gangs en mer. Ils pillent les bateaux de marchandises venus de Port-au-Prince et les denrées qui parviennent à l'île sont hors de prix. À la Gonâve, tout vient de la capitale. L'agriculture sur l'île ne permet pas de nourrir la population. Dans un communiqué, l'OIM déclare qu'une réponse urgente est nécessaire pour protéger les réfugiés et renforcer les infrastructures locales en prévention d'une catastrophe humanitaire. Mais sur place, cette aide se fait attendre. L'État a été sollicité plusieurs fois en vain par les communes de la Gonâve pour un soutien financier. La prise en charge pèse donc pour l'instant uniquement sur la population, comme l'explique Amos Toussaint.
Jusqu'à présent, c'est l'entière responsabilité des citoyens, c'est la solidarité des citoyens qui gèrent toujours et ces déplacés-là qui sont en situation difficile et qui ont besoin de se nourrir et de se vêtir et de se protéger contre le chaud et le froid. Et c'est toujours l'hébergement, c'est du côté de la population, la nourriture, c'est du côté de la population, les habits, c'est du côté de la population. Donc jusqu'à présent, la commune n'a pas de moyens financiers et matériels pour répondre à aucun besoin et de se déplacer.
Yves Nolte-Vilsaint est professeur d'économie au lycée national de Pointe-à-Raquette. Il accueille des réfugiés chez lui depuis plusieurs semaines.
Actuellement là, nous avons deux personnes chez nous, des gens qui viennent du côté de la carrière, et ça fait environ 2 mois. Ils n'ont pas de famille à la Gonâve, ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont rien à porter, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas même de vêtements, c'est-à-dire... Et les problèmes de sécurité, les bandits ont envahi la maison, ils n'ont pas de choix.
Une décision naturelle pour lui et les 12 membres de sa famille avec lesquels il partage son toit.
Nous les Haïtiens, nous vivons en famille, nous sommes très 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 hospitaliers. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand espace. Okay? On n'avait pas de grand espace, mais de toutes les façons, nous avons des arrangements et en leur donnant une chambre de toutes les façons pour mieux vivre. Comme un être humain.
Mais cet élan de solidarité ne peut servir que de rustine sur une île depuis longtemps laissée pour compte. Certains habitants s'inquiètent de voir arriver parmi les réfugiés des membres de gangs qui pourraient exporter les violences à la Gonâve, alors que l'île ne compte que 50 agents de police municipale. Ils en appellent à l'aide internationale et à la diaspora pour pallier l'absence de réaction de l'État.
Dossier signé Lila Olkinwara à Port-au-Prince. Vous pouvez nous écouter sur le 89.3 FM.
RFI Midi.
Pile 8h18 à Montréal, au Québec, au hasard du calendrier culturel, deux pièces actuellement ont en haut de l'affiche des artistes issus du monde autochtone. Il y a cette pièce tirée du livre Kukum, grand succès de librairie qui fait la part belle à la langue inoue. Et puis cette pièce de l'artiste métisse Marie-Josée Bastien qui revient sur le passé récent des Wendats, un peuple installé non loin de la ville de Québec. Reportage signé Pascal Guéricola.
Faut que tu saches que je suis métissée, mi-québécoise, mi-autochtone de la communauté Huron-Wendat. Être métissée pour moi, c'est naviguer entre deux mondes.
Sur scène, Marie-Josée Bastien dévoile un pan de son histoire autochtone. Une histoire qui se confond avec celle des Wendat. Ce peuple, dont la langue a presque disparu pendant des décennies, conserve une identité distincte. L'actrice et l'auteur de Yahandawa constatent un réel intérêt du public pour la parole des Premières Nations.
Il était temps que ça se passe. Il y a une réelle envie d'aller à la rencontre de ces communautés-là. Une ouverture de la part des publics de recevoir ça. Une ouverture de la part des communautés de raconter ça. Donc, tout à coup, on peut se rejoindre sur un pont. Voir l'avenir ensemble, c'est ça qui est important en ce moment.
Dans la pièce résonnent les mots en Wendat qui témoignent du combat de ce peuple pour se réapproprier sa langue. Marie-Josée Bastien.
La communauté de Wendake travaille tellement fort pour revitaliser cette langue-là. Et c'était comme important pour que moi aussi je la retrouve. Pour que ma mère, qui est quand même un personnage dans la pièce, qui a perdu ses droits, qui a perdu sa langue, qui a perdu sa culture, quand elle va venir voir le show, elle avait 40 personnes de la famille, se reconnaissent aussi sur la scène. Puis ça crée un baume aussi sur ses cicatrices.
Ce récit, longtemps nié par l'histoire officielle, a touché ses spectatrices.
Ils ont été dans l'oubli longtemps. On leur redonne un espace.
Je suis très émue de cette pièce-là, personnellement, de la façon dont ça nous est raconté. Puis c'est important dans notre regard aussi, comme société québécoise, de reconnaître ce qui s'est passé. Puis par le théâtre, ben, quand on nous raconte une histoire avec la connexion des personnes de l'intérieur, disons, ben, je pense que ça nous fait connecter à, encore mieux, je pense, à l'histoire. Ouais.
Si les formes du théâtre autochtone varient énormément, le territoire ancestral auquel ces nations sont rattachées y joue un rôle central. Comme dans l'œuvre de l'artiste atikamekw Véronique Basile-Hébert.
On est coupé de notre vie traditionnelle. On vit de plus en plus dans un autre mode de vie qui est moins lié avec le territoire. Donc, c'est une façon pour nous de nous le réapproprier et de le réintégrer un peu dans notre psyché. Le manque du territoire, le souvenir du territoire devient comme une psalmodie de la dramaturgie. On a cette scission avec le territoire qu'on exprime par les arts.
Dave Jennings, qui dirige une troupe de théâtre autochtone, revendique lui aussi un ancrage sur le territoire traditionnel.
On a misé énormément sur l'art pour objet de guérison. On s'est rendu compte qu'il y avait une façon de faire l'art à notre manière, de pouvoir raconter nos propres histoires aussi, sans qu'on nous l'impose. Dans la pièce « La cendre de ses eaux », je me souviens qu'on avait répété sur le bord de l'eau, sur le bord du fleuve, sur une falaise. Et j'ai gardé cette scène-là après ça dans mes écritures. Puis on a reproduit la même chose en salle. Puis je disais toujours à mes acteurs, souvenez-vous, quand vous étiez en haut, pour vrai, souvenez-vous de ça pour vous nourrir. Voyez-le, le fleuve. Voyez, sentez les roches sur lesquelles vous êtes assis. Vous allez être vrai dans votre jeu.
Grâce au théâtre, l'affirmation des premiers peuples prend donc un nouvel essor au Québec. Pascal Guéricola, Québec. RFI.
Yahandawa de Marie-Josée Bastien qu'on entendait là dans ce reportage se joue cette semaine à Montréal du 4 au 8 décembre.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, avec vous, Benoît Ferrand, et on le disait, en Martinique, le leader du mouvement de contestation contre la vie chère entame ce lundi la première étape d'un marathon judiciaire.
Et oui, d'aujourd'hui au 21 janvier prochain, Rodrigue Petitot, figure emblématique du RPRAC, aura trois fois rendez-vous avec les juges. Alain Livory, La Première Martinique.
La première fois, c'est donc aujourd'hui, il comparaît pour menace envers les élus. Puis, dans trois jours, le 5 décembre, le parquet de Fort-de-France a en effet interjeté appel de la décision du tribunal de son placement sous contrôle judiciaire dans le dossier de l'intrusion à la résidence préfectorale lors de la visite du ministre des Outre-mer. Pour Max Belmar, l'un des trois avocats de Rodrigue Petitot, il y a clairement une volonté d'emprisonner son client.
Vous avez bien compris qu'on veut à tout prix placer M. Petitot en détention. Il a été renvoyé à une audience du 21 janvier en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Donc un procès le 2, un procès le 5, un procès le 21.
Ce matin donc, le leader du RPRAC comparaît pour avoir appelé dans une vidéo sur les réseaux sociaux à, je cite, attaquer les maires qui ne fermeraient pas leur mairie pour demander le départ du préfet. On écoute à nouveau Maître Max Belmar. Pour lui, tout est question d'interprétation.
Ce sont des subtilités de la langue créole qui peut-être ne sont pas maîtrisées par tous. Attaquer les mairies, ça ne veut pas dire qu'il a dit qu'il fallait tirer la Kalachnikov sur les mairies.
Rodrigue Petitot joue gros. La justice peut décider de le maintenir en détention préventive jusqu'à son procès du 21 janvier. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences et embraser la Martinique. Et s'il est libéré, il devra repasser devant le juge le 5 décembre.
Alain Livory, des Outre-mer submergés par la drogue, un sous-dimensionnement des moyens humains, une inadéquation totale entre les moyens déployés et les enjeux de la lutte contre le narcotrafic. Ce sont quelques-unes des conclusions d'un rapport sénatorial sur le trafic de stupéfiants en France. Réaction du président de la collectivité territoriale de la Martinique, Serge Letchimy. Pour lui, l'État a abandonné les Antilles.
La phrase est très claire. Les pays d'outre-mer, Antilles et Guyane, sont abandonnés. Et ils vont même plus loin. Ils disent très clairement que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont au cœur d'un réseau mondialisé du trafic de cocaïne, principalement entre les Amériques et l'Europe. Et que la stratégie de la France est condamnable. Quand vous voulez éviter que 400 millions d'euros de financement de drogue circulent en Martinique sous fond de paupérisation, vous mettez des moyens pour que ça ne circule pas. La collectivité territoriale est obligée d'acheter un drone. L'État a acheté un, mais obligé d'acheter un. C'est ma compétence à moi, CTM, pour acheter un drone pour surveiller les côtes.
Serge Letchimy, président de la collectivité territoriale de la Martinique. Bon après-midi, Charlotte. À demain.
Merci à vous, Benoît Ferrand, et bonne journée. RFI Midi et la chanteuse brésilienne Nini Kerr. Tout de suite, son morceau « Tudo ». La chanteuse qui sera en concert ce soir à Rio de Janeiro.
Dizer tchau, tem tanta coisa que eu quero te falar. Como no filme, o que é bom faz o final. Um beijo sem ensaio, tipo amor pra recordar. Você atravessando a rua fez parar meu coração. Não morri, não era hora, mas me fez suar. Teu sorriso da barato já me fez rolar na grama e não querer voltar. Mas eu volto com saudade pra te encontrar no futuro. O mundo não é tão grande pra não te achar. Um dia cê vai estar na rua, vai olhar pro lado
e daquele muro vai me ouvir gritar.
Deixa eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar que seja. Eu ficar na tua vida, morar dentro da concha do teu abraço. Não quero largar que seja. Eu além da conta, o que a gente precisa é aprender a sonhar.
Insisto em te ver, pago quanto for.
Nini Kerr, qui est donc en concert ce soir à Rio de Janeiro, au Brésil, et ce morceau, Tudo. Merci à Vincent Bito en régie, rédaction en chef Emmanuel Klotz, Mouna Elbana. Je vous passe le relais, Pascal Paradou, pour l'émission de Vive Voix, et aujourd'hui autour d'un film réunionnais en créole. Ça s'appelle Marmaille. Bonne émission, et on se retrouve demain.
RFI Midi.
Ce lundi sur RFI.
Comment la science infuse et se diffuse?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Bienvenue autour de notre table ronde mensuelle avec mes consoeurs et confrères de la presse scientifique venus avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner. Science et Avenir, Epsilon, Science et Vie, Ciel et Espace pour la science, à vous de jouer et d'écouter pour les remporter.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.